tous les vendredis, 19h-20h.
On se tutoie.
Avec Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Bonjour, bonsoir, c'est Jean-Luc Reichmann. Alors oui, une nouvelle aventure commence, une histoire de dingue. Chaque vendredi, entre 19h et 20h, le programme, la base, on se tutoie. Ensuite, laissez-vous guider. Allez, on est parti ensemble.
Salut Jean-Luc.
Oh, salut.
Salut Jean-Luc.
Comment ça va? Bonne semaine? Ouais. Ouais. Eh ouais, fin de semaine déjà. Et avant de partir en week-end, j'aime me refaire la vie autour d'un verre avec des vraies personnalités. Des personnalités qui en ont de la personnalité. Et là, je me suis dit, on va pousser encore le bouchon un peu plus loin, Maurice. Élargir encore le cercle de nos invités du vendredi soir. Alors le problème, après Michel Polnareff, après Louis Bertignac, après Marc Lavoine, je me devais d'inviter une personnalité taille patron double XL, digne de ce nom. Alors je vous mets dans la confidence, avant-hier, je reçois un coup de fil d'un pote qui me dit « Excuse-moi de te déranger, mais il y a un couvreur qui vient de me parler de toi. » Là, vous vous dites « Non, c'est pas possible. C'est de l'humour des années camping, des années disco, bref, c'est de l'humour de petites annonces. » Eh bien si, les amis, avant-hier, il m'appelle, il me dit très sérieusement « Il y a un couvreur qui vient de me parler de toi. » Nos chemins se croisent très souvent sur les routes de la vie. Mais là, je profite de son coup de fil pour l'inviter à nous parler de lui sur Nostalgie. Il a accepté par bonheur mon invitation et je dois vous avouer que j'en suis pas peu fier. Pour venir jusqu'à nous, il est venu certes, comme d'habitude, incognito du camping où il faisait un barbecue en dansant une rumba la vie. Il est passé boire un verre au café du Trésor. Il y a laissé son chien Bill. Tel un romantique, tel un seigneur. Dans sa vie, il a joué les visiteurs, car il a quasiment tout essayé. Pour arriver jusqu'à nous, il a même piloté le vaisseau de temps X, où il a rencontré un ours dans le Jura. Devant la porte du studio, pour l'accueillir, tout le monde était debout. Bonsoir Franck Dubosc.
Bonsoir.
Comment
bonsoir.
Ça va?
Bonsoir, ça va, ça va. Tu donnes notre intimité sur ce couvreur.
Oui, non mais il faut dire aux auditeurs que c'est vrai.
Mais c'est
plus.
Vrai, bien sûr, un couvreur ouais. Qui passe chez moi pour réparer mon toit
oui.
Et qui me parle de toi.
Oui, c'est
qui non, me mais... dit, mais j'ai travaillé chez Jean-Luc Reichmann. Il faut dire qu'on est voisins. Hein.
Oui.
Et voilà, et dans le doute,
oui.
Je t'ai demandé, bien sûr, pour voir la fiabilité de ce couvreur.
D'accord, voilà. Donc j'ai rebondi et je me suis dit, tiens, si tu passais vendredi, et ça me fait super plaisir de t'avoir.
Exactement, c'est super.
Ouais, c'est un grand plaisir. Alors évidemment, le thème de l'émission, c'est on se tutoie pour plus de proximité, mais c'est comme ça dans la vie depuis des années. On s'est croisés, recroisés, décroisés. Et pour les auditeurs qui connaissent pas bien le Franck Dubosc, parce qu'il y en a pas beaucoup qui te connaissent pas, franchement.
Mais il y en a.
Il y en a quelques-uns. Alors on va se remémorer. Ça commence en 1979, comme je le disais, autour d'un pilote du vaisseau des frères Bogdanov dans Temps X. Là, c'est une histoire de fou, une histoire de dingue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu te retrouves pilote chez les frères Bogdanov?
Mais un casting, j'allais porter des photos. Tu sais, à l'époque, on allait, c'était rue des Alouettes, comment ça s'appelait? À la SFP.
À la SFP, 36 rue des Alouettes,
36 rue
en des... face du bar des comédiens.
Exactement.
Mais on s'en rappelle très bien.
Et j'allais porter des photos là-dedans. Et puis, un mec qui faisait un casting me dit, tiens, est-ce que vous voulez, on fait un casting, venez. Je suis rentré dans une pièce.
Ouais.
J'ai fait le casting pour être copilote du vaisseau des frères Bogdanov.
Oui.
J'ai réussi ce casting, ça va être le premier casting que j'ai réussi.
Bah oui, c'est pour ça que je commence par... Et c'était en 79. Voilà.
Non, c'était un peu plus tard. Temps X existait depuis 79, effectivement.
Ouais.
Moi, j'ai dû rentrer là-dedans en 81, un truc comme ça, un ou deux ans après.
D'accord.
Je pense. Je suis devenu Snoat, le pilote du vaisseau des frères Bogdanov, le copilote... du vaisseau. Et l'autre, le pilote s'appelait Sartorian.
Extraordinaire.
Et donc, j'avais l'impression de faire mon Star Wars à moi. Si
mais oui, c'est ça. Et alors, voilà. Tu vas faire ta Star Wars en Angleterre, c'est ça, après?
Oui, après. Après, oui, je fais quelques téléfilms, quelques panouilles, quelques trucs. Et puis, à un moment, je fais même un film, un rôle principal dans À nous les garçons.
Mm-hmm. C'est très élégant et très chic.
Oui, mais non, c'est la suite.
Ouais.
Enfin, pas la suite, mais le même réalisateur qu'À nous les petites anglaises.
Bien évidemment.
C'est très... Et puis, j'ai l'impression que je patine un petit peu.
Mm-hmm.
Et j'ai tout le monde qui me dit, ça y est, c'est parti pour toi. Et moi, je sais très bien que non, preuve en est, c'est qu'il a failli du temps pour que ça parte.
Ouais.
Et puis, je suis parti en Angleterre. J'ai pris le bateau.
Mm-hmm.
J'ai pris le bateau à Dieppe.
C'est chic.
Et 4 heures de bateau, j'ai failli gerber, puis revenir, j'ai pris Boulogne. Et puis voilà,
Il n'y avait pas encore le tunnel sous la Manche, parce
non.
que c'était 92, je
non,
crois,
non,
de
y avait
mémoire.
Pas. Ouais, ouais, ouais,
l'Eurostar, là.
Il n'y avait pas encore. Non, ouais. C'était soit l'avion, soit le bateau. Je n'avais pas les moyens de l'avion, donc j'avais pris le bateau. Et puis, je suis allé comme ça chez des gens, chez des. Et c'est assez marrant, tiens, parce que j'en parle jamais.
Vas-y.
Je suis allé, j'avais une copine qui m'avait donné un numéro de téléphone d'un mec,
ouais.
Jacques, il s'appelait. Et c'était un peu, tu sais, c'est une maison bleue, c'est un peu un endroit où vivaient plein de mecs, plein de filles comme ça.
Maxime Le Forestier.
Exactement.
San Francisco.
Et puis, puisqu'on est à Nostalgie, je nous remets dans le bain.
Oui.
Et je suis arrivé dans cette maison, loin de Londres. Il a fallu que je prenne le métro, le machin et tout ça, le train de banlieue.
Sur le coup de fil de Jacques, là.
Sur le copain Jacques de cette copine.
Ouais.
Et dans cette maison.
Ouais.
Donc j'avais des artistes, des musiciens, qui faisaient un peu la manche et tout ça. Je suis resté 15 jours avec eux. Moi, j'ai fait des auditions, des castings, des machins. Je suis reparti et j'ai appris plus tard, je ne les ai jamais revus. Hein.
Ouais.
Il y en a un qui était devenu, celui qui a inventé la house music, qui est parti en Belgique.
Dingue.
Et il y en a deux qui étaient des musiciens de Wham.
Mais non, Wham. Wake Me
oui,
Up
oui,
Before
oui.
You Go Go.
Et des musiciens, hein, ils étaient guitaristes.
Ouais, ouais.
Et voilà. Et donc ces mecs, c'est étonnant, quoi, qui étaient devenus des
Il y avait une fourmilière là-bas.
Ouais, ouais, dans cette maison. Voilà, je raconte jamais ça, mais c'est la petite anecdote. Je me souviens, on dormait dans le couloir, il y avait trop de monde.
C'était
c'est marrant. C'est la première fois que je suis allé à Londres, ça.
Alors ça, c'est les années 80. Après, on saute dans les années 90 et je m'aperçois que tu deviens auteur pour l'émission d'Arthur.
Ouais.
Alors là, histoire de fou.
Oui. Je deviens auteur pour
Émission Impossible.
Pour l'émission Impossible. Alors pour l'émission Impossible, non, en fait, je suis dans l'émission Impossible avec Ellie et Dieudonné, qui je joue leur souffre-douleur. Et je me souviens d'ailleurs le générique de l'émission, c'était en direct, c'était rare ces émissions-là en direct.
C'était au Palais des Congrès.
Et exactement.
Avec Béatrice Esposito qui était à la baguette à l'époque.
Exactement.
Et on s'en rappelle, c'était les premières émissions d'Arthur.
Et la toute première, c'est une caméra qui fait toutes les loges en direct. Hein. On est en direct.
Ouais.
Elle fait toutes les loges, elle ouvre les portes des loges, tu sais, pour voir les artistes qu'il y a.
On s'en rappelle bien.
Et moi, si tu retrouves l'émission, il y a Dieudonné qui est en train de en faux, bien sûr.
Bah oui,
quand elle ouvre la porte, mais t'imagines,
et
Ellie est en train d'essayer de me faire manger des chips ou un truc comme ça. Je suis leur souffre-douleur.
Oui.
Et je sais plus, dans la deuxième, c'est la Mano Negra qui me jette sur les escalators. Je te jure. Et là, je suis le souffre-douleur. Et puis après, Arthur va commencer à faire Les Enfants de la télé. Et je crois que c'est sur Les Enfants de la télé que je deviens que je redeviens auteur de chez Caz Productions.
Alors de fil en aiguille, moi il y a quelque chose qui me plaît bien, c'est qu'à un moment donné tu t'arrêtes dans les années 94. Si c'est faux, c'est pas très très grave, tu me diras si je me trompe, mais là c'est le Café du Trésor.
Ouais. Oui, complètement.
Là, c'est-à-dire c'est quoi, c'est un déclic?
C'est un c'est un endroit, un bar où on a les copains qui sont serveurs les copains sont serveurs et puis donc on y va tout le temps parce que c'est l'occasion d'amener les nanas qu'on a envie d'inviter à dîner et puis un peu de frimer, tu sais, on
Évidemment.
A toujours le petit verre offert, le truc, on connaît
Bien
tout
sûr.
Le monde, on serre les pinces, donc on est un petit peu...
Oui.
Ils ont pas mal de jeunes comédiens, moi je suis celui qui a déjà un petit peu fait des choses, j'ai un petit peu fait des petites annonces avec Ellie, tout ça. Et puis un jour, les patrons du Trésor, Alain Attal, le patron, décide qu'il va être le producteur des productions du Trésor, qui sont tous les films qui viennent de faire L'Amourouf, Astérix, qu'on fait les plus grosses
avec
productions.
Avec Gilles Lelouch, bien sûr.
Et tous les films de Guillaume Canet, tout ça. Et il nous dit, les gars, voilà, vous êtes une bande de potes. Il y avait Guillaume, d'ailleurs, Canet dans la bande.
Mmh.
Arnaud Lemort, Philippe Lefebvre. Et vous allez faire des stand-up. Je reviens de New York.
Je trouve ça génial.
Et aux États-Unis, ils font des stand-up.
Ouais.
C'est quoi? Il dit, vous vous mettez au fond du bar, on va mettre un petit cube et vous allez raconter votre vie.
Sur le petit cube.
Sur le petit cube. Donc, personne ne connaît le mot stand-up, machin. Et
personne ne connaît encore la péricube, mais pour l'instant,
personne ne connaît la péricube.
Mais ça vient
et
de
on
là.
Se retrouve, et là. Exactement. Et on se retrouve sur ce cube à faire à tous les mercredis, c'est stand-up.
C'est excitant pour toi.
C'est excitant, c'est génial. Parce que moi, je ne suis pas parti pour faire ça
du tout.
Mais à un moment, vient mon mercredi à moi et j'écris un truc plus ou moins poétique, pas forcément ultra drôle. Et d'ailleurs, ça a commencé, je ne suis plus là, vous me regardez, ce mec-là, vous dites, ce mec-là va faire un stand-up, c'est pas faux. Et je pars là-dessus. Et puis, ça fait rire. Et là, je descends du truc et j'ai une fille qui me dit, j'ai adoré ce que tu as fait. Et je comprends à ce moment-là que si je fais ce métier-là, c'est pas pour qu'on me voie à la télé ou au cinéma et qu'on me dise « je t'ai vu, t'es connu » ou « je peux faire une photo », c'est pour qu'on me dise « j'ai aimé ce que t'as fait ».
C'est dingue, parce que c'est voilà. exactement le même discours que Marc Lavoine la semaine dernière qu'on a reçu. C'était pas une, une question d'être séducteur ou quoi, mais c'était satisfaisant pour toi de dire « je suis utile à un moment donné à c'est une ça. Émotion positive ».
Exactement. Et je me suis dit, ben, y en a une qui me l'a dit, je voudrais qu'il y en ait deux, puis trois, puis ouais. quatre, puis cinq. Et puis je vais essayer de me construire comme ça une armée de gens qui me diront « j'ai aimé ce que tu as fait là ». Et puis je vais essayer de faire en sorte que, qu'ils soient de plus en plus nombreux, voilà, qu'ils m'aiment vraiment le plus longtemps possible.
Et on t'aime de plus en plus, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être un déclic supplémentaire, ta rencontre avec Elie Semoun pour les petites annonces. Là.
Rodriguez, père et fils. Nous sommes techniciens du cinéma. Depuis plus de 150 ans.
Là, c'est quand même merveilleux, ça.
Alors, il a fallu du temps avant qu'on voit que c'était moi. Je me souviens, les gens me reconnaissaient dans la rue. Ceux qui me reconnaissaient m'appelaient Monsieur Verge.
C'était... Non, mais c'est déjà très gratifiant, quand même.
C'était déjà pas mal. J'avais déjà... Oui. On mettait un nom sur mon front.
Oui.
Et c'était parce qu'il y avait cette petite annonce où c'était la petite annonce des mecs qui ont des noms un peu difficiles à porter.
Oui.
Et moi, j'étais Jean-Marie Verge.
Oui. Mais pour toi, c'était facile à porter.
Mais c'était très facile à porter,
bien
oui.
Bien sûr.
Oui.
Bonjour, Monsieur Verge.
Bonjour, Monsieur Verge, c'est
ouais.
moi.
Oui.
Je vous serre la main.
Non, parce que c'est bizarre. J'ai lu, évidemment, je me suis renseigné toute la nuit. La base, c'est quand même que t'es un petit garçon timide.
Ouais,
en Normandie.
Complètement.
Parce
ouais.
que du tout, ouais. les métiers artistiques, mais pas du tout dans la famille. J'ai
ah
lu
non.
tout ça, mais rien du tout. Des métiers manuels, des métiers de tous les jours.
Ouais, ouais.
Et est-ce que ça t'aide, toi aussi, par rapport à ces petites annonces, par ce phénomène de se montrer, de vaincre cette timidité?
Ben, ça... Oui, en fait, mais je me cache. Parce que c'est... Et là où ça m'aide plus, l'humour m'aide le plus, c'est que je me cache encore plus derrière
ouais.
l'humour.
Ouais.
C'est un vrai masque. C'est un vrai masque, l'humour, puisque c'est pas moi.
Ouais.
Comme c'est pas moi, je me cache. Et
Mais tu fais passer tous ces messages-là.
Et je fais, oui, bien sûr.
Ces messages, ils arrivent avec un premier one-man show, qui, si je ne me trompe pas, s'appelle le premier one-man show, du beau, du bon... Du Bosque.
Du Bosque, oui.
T'as les trouilles à ce moment-là quand tu t'y lances, non ?
Pas tant que ça, je suis assez... Pas tant que ça parce que justement, comme l'humour n'est pas le premier truc que je voulais faire,
ouais.
je fais ça, pas en dilettante, mais sans
prendre conscience.
Oui, et puis sans la peur que ça ne marche pas, puisque ce n'est pas mon truc.
Ouais.
Mais chaque chose que j'ai envisagée dans ma carrière qui a marché sont les choses que j'ai faites à côté, sans me dire ça aura une influence sur ma vie. Parce que justement, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Je m'en fous, c'est à côté. C'est je m'en fous.
Mais ça c'est intéressant parce que après.
Attends, faut que tu partes du principe que tout ce que je dis est intéressant.
Ah ouais, merde.
Ah non, Jean-Luc,
excuse-moi.
Faut qu'on reparte sur des bases.
Oui, non, mais ça, ce sont de très, très, très bonnes bases, parce qu'après le one-man show, là, ça dure quand même 3 ans, je vous ai pas raconté, donc il te semblait que t'avais oublié quelque chose.
Je suis presque aussi troublé que quand j'ai sauvé la vie d'une top modèle internationale au large de Bornéo. Je vous ai pas raconté ça ?
Ouais, je vous ai pas raconté.
Ouais. Qui là... était la déclinaison de Du Bon, Du Beau, Du Bosque.
Ouais.
Je suis presque aussi...
Ouais. Oui, vous inquiétez pas, oui, c'est pas grave, c'est le potard qui est là. Et d'un seul coup, tu avais envie de leur dire plus encore.
Oui, au fur et à mesure, et plus j'ai avancé dans mes one-man shows, j'en ai fait 5, plus je me suis rapproché de moi, en fait. Au début, c'était un peu le séducteur minable qui n'y arrive pas. Et
oui, puis, la caricature.
La caricature. Et puis, j'ai gommé de plus en plus la caricature. Alors forcément, dans la tête de ceux qui pourraient ne pas m'aimer, c'est la caricature qui est restée. Parce
ouais.
que c'était le plus fort, le moment le plus fort. Bonsoir, je suis Franck Dubosc,
ouais.
machin. Mais c'est moi, étant timide, je faisais quelque chose que je n'aurais jamais osé faire dans la vie. Je ne me serais pas présenté en disant bonsoir, salut, ça va, tu vas bien, je suis Franck Dubosc, je suis le meilleur.
Ouais.
Je n'aurais jamais fait ça. Mais effectivement, ça a été une carte de visite pour moi et ça m'a permis d'être un autre, d'être celui d'à côté de moi qui peut dire les choses.
Ouais, et tu l'as dit super bien. On va en parler. Bon, là, je saute du coq à l'âne, mais j'ai vu effectivement un ours dans le Jura. Tu m'as bouleversé. Mais ce qui m'intéresse pour les auditeurs qui nous écoutent, ceux qui te connaissent ou ceux qui te connaissent bien, c'est le parcours pour y arriver. Et ce parcours, à un moment donné, passe par la télé, puisqu'on a tout essayé avec Laurent
ouais.
Ruquier. Mais tu reviens avec Pour toi, public.
Bonjour, c'est Franck Dubosc. Tu rêves d'être une star, mais tu te demandes si c'est vraiment agréable. Oui, c'est agréable.
Hé, hey, tu te tasses, connard !
Pardon. Alors pour toi, public, aujourd'hui, je vais t'emmener dans l'univers d'une star. Mais attention, chut ! Pour l'instant, la star dort.
Là, tu pousses le trait à l'extrême et tu vas à fond dans la caricature.
Oui, oui, j'y vais. Là, ça, c'était à Montréal. J'avais commencé à faire des petites capsules comme ça. Je savais pas encore ce serait les pourtois publics. Oui, je pousse tout à l'extrême, mais c'est ce qui fait que ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. C'est-à-dire que là, tout à coup, j'ouvre ma fameuse armée de gens qui m'aiment.
Oui.
Mais forcément, je crée aussi une armée de gens qui m'aiment pas, puisque je suis en caricature. Je vais à fond dans...
Toi, tu le joues au deuxième degré, tu le joues au troisième degré.
Ah, je suis au cinquième degré.
Mais non, mais lorsque tu l'es, puisque moi, je t'ai vu beaucoup sur scène, vraiment, je t'ai vu évoluer. Pour moi, on le prend au premier degré. Et ceux qui t'aiment pas, l'armée qui t'aime pas, ils disent ah ouais, d'accord.
Oui.
C'est le beauf dans la soirée qui se la pète sur une musique de John Travolta, par exemple.
Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je réfléchissais hier sur Un ours dans le Jura, justement, où on me dit ah, c'est bien parce qu'il sort de sa zone de confort, mais mon Dieu,
mais tu
parce que les gens croient que c'est confortable d'être en maillot moule bite dans un film.
Alors justement, là où tu sors de ta zone de confort, justement dans ton maillot moule bite, je rebondis sur tout ce que tu dis.
C'est là où je sors de ma zone de confort pour le coup.
Et là tu sors de ta zone de moule bite avec Camping, où il y a acteur et scénariste,
ouais.
Et là on pousse le trait un peu plus loin.
Alors, on n'attend pas Patrick?
Ouais, alors là, Patrick Chirac, pour moi, c'est le summum. Fabien Antoniente, bien évidemment, derrière les boutons à la réalisation. Là, on y va fort. La Renault bleue peinture lurée.
Fan de Barzotti.
Oui, fan de Barzotti. C'est la Dolce Vita dans Camping, parce que là, c'est une révolution pour toi. Et on va approfondir le camping avec Patrick Chirac dans un instant. Vous l'avez bien compris, nous sommes sur Nostalgie. C'est la route du week-end. Oh. C'est beau ça, non?
Générique ça, oui.
Ah bah oui, c'est générique. Oh. Tu parles italien ou pas?
Non. Je suis obligé de réfléchir, c'est comme pour le piano quand on me demande si je joue du piano.
Non.
Je réfléchis parce que j'ai tellement envie de dire oui.
D'accord.
Mais non.
C'est la Dolce Vita. La Dolce Vita avec Monsieur Franck Dubosc, invité dans On se tutoie. C'est vrai que Camping, bon, on parlait de la Dolce Vita, c'est une révolution pour toi, parce que là, c'est entre guillemets, comme disait le grand Cyril, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, là.
Exactement.
C'est, ouais.
Mais ça fait longtemps que je le porte en moi, ce Camping, parce que j'avais commencé à écrire un film sur le camping, qui s'appelait 14 juillet, 15 août, qui, si je le faisais, pourrait être le préquel de Camping. Il n'y a pas de Patrick Chirac, tout ça, dedans. Hein, y a... Et puis, comme je faisais du camping, jusqu'à l'âge de 37 ans, je suis allé rejoindre mes parents, là où ils campaient, dans le Périgord.
Ouais.
Et puis, j'en avais fait un sketch, avec, là, il n'y avait toujours pas Patrick Chirac, mais il y avait Jackie, il y avait tout ça. Dès que j'ai commencé à voir... petite notoriété, enfin, ou même une notoriété avec le One Man Show, dès que je croisais quelqu'un, je disais je vais faire un film sur le camping.
Oui.
J'en ai croisé des producteurs, ou alors il y avait toujours, je me souviens d'un, un gros producteur qui m'a dit ah oui, on va faire des voleurs qui ont caché un truc dans un terrain, et puis un terrain de camping s'est créé, il faut qu'ils récupèrent, tout ça. Je dis non, on va aller en vacances, en camping. Et puis c'est Fabien Antoniente qui, tout à coup, que j'ai croisé aussi, pareil, comme c'était à tout le monde, je proposais, c'est le premier qui a dit ok, on y va.
Alors, ce qui m'émeut énormément, excuse-moi, j'ai un petit peu chaud, j'enlève ma veste, mais c'est pas grave, c'est qu'on se rencontre, moi à l'époque je suis à la Ligue d'improvisation française, on se rencontre de mémoire à Nantes, je viens dans ta loge après ton spectacle, moi voilà, je suis en spectacle vivant, et toi aussi, mais en one man show, et dans ta loge, il y a le nombre d'entrées en énorme chaque soir, des entrées de camping, tu te souviens de ça obligatoirement?
Je me souviens de ça parce que c'est la première fois que ma femme est venue me voir en tournée, que j'étais avec celle qui allait devenir ma femme, c'est à Nantes, oui, à la Cité des Congrès de Nantes.
Ouais.
Je me souviens de ça.
Ouais. Tu te souviens de ça?
Oui. C'était en fait, non, je ne mettais pas à chaque fois, c'était ce soir-là.
Et bien ce soir-là, j'étais là dans ta
loge.
Ce soir-là,
parce que c'est le premier week-end où on était déjà à plus d'un million d'entrées, ou je ne sais plus,
en
4 jours. Oui,
mais c'est ça. Et tu avais une fierté, et il y avait, t'as vu, c'était un million, et j'étais rentré dans ta loge pour te féliciter.
Ouais.
Là, on est quoi? On est en 2006, 2007, non?
On est en 2006, on est le film est sorti le 26 avril, et ça doit être le samedi soir. soir, donc on est le 26, le 27, le 28, on doit être le 29 avril.
Tu te rends compte? Et moi j'étais là, et ça me marque énormément. Et puis après, alors là tu y vas franchement, d'un seul coup tu te plais à jouer de la musique, tu dis que tu joues pas du piano, mais tu deviens le barde dans Astérix et Obélix, alors là, un moment d'anthologie.
Vous êtes musicien?
Je suis barde gaulois.
Oh mon Dieu, mais moi aussi je suis barde.
Je suis Assurance Tourix.
Oui, c'est moi. Assurance Tourisme. Ouais. Je connais toutes vos chansons par cœur. L'Armorique, l'Armorique.
Non, mais c'est extraordinaire.
C'est Lalanne.
Ouais, ouais. Ouais. Eh oui, c'est Francis Lalanne, ouais. Fais-moi l'amour, pas la guerre, tout ça. Et c'est Lalanne. C'est quand même aussi dans le comble de on se moque et on a de l'autodérision. Là, moi, je trouve que c'est le paroxysme du truc.
Bah, oui, et puis surtout, c'est-à-dire que moi, j'arrivais de camping où je venais de faire un succès. Et là, j'arrive sur le tournage et il y a quand même Delon et Depardieu.
Ouais.
Et les deux jouent avec moi. Il y a une petite poupée qui vient d'arriver. C'est ce jeune mec qui fait un succès, mérité ou pas. Et ça, ils le cherchent. Et ils sont l'un et l'autre en train de... Quand je dis jouer avec moi, je suis au milieu des deux avec chacun veut tirer la couverture. Voir ce petit jeune, d'ailleurs, je ne suis pas si jeune que ça à ce moment-là, pour le coup.
Oui, mais tu fais le petit jeune au milieu des deux.
Mais oui, je suis un peu... Alors, ils tamponnent. Ils y vont à coups de blague sur moi. Mais gentiment, hein, parce que je viens... En fait, après, à ses copains avec les deux. Mm-hmm. Mais c'est très bizarre que je me retrouve au milieu des deux, vous vous rendez compte? Enfin, tu te rends compte.
Bah oui, puisqu'on se tutoie.
Oui, et on se tutoie dans la vie. J'étais là dans une interview.
Oui, non, pas du tout. C'est Jean-Luc.
C'est mon couvreur qui m'a parlé de toi.
Tu te retrouves autour de deux monstres sacrés.
Au milieu des deux. Et c'est mon... On va dire, c'est pas mon deuxième film, mais c'est mon deuxième gros film. C'est-à-dire que là, je sors, effectivement, il y a des millions d'entrées, il y a tout ça. Donc les gens me regardent un peu. C'est plus les gens me regardent en se disant, c'est mérité ou ce n'est pas mérité.
Ouais.
C'est ça, hein, quand tu fais un succès, il y a une partie des gens qui disent c'est mérité, l'autre qui dit c'est pas mérité. En plus, quand ça vient de la comédie, en général, la sanction est plutôt.
Immédiate.
Moins méritée que méritée.
Ouais, ça fait peur toujours le mercredi à 14h quand il y a un film qui sort. Et là, c'est la sanction aussi. On va en reparler. Là arrive Disco. Là, tu deviens acteur, mais également scénariste aussi.
Comme Camping. Ouais. Camping aussi, j'étais scénariste. Oui, co-scénariste. Mais c'est pendant Camping, on parlait avec Fabien, on était content de Fabien Toniente, on était content de tourner ce Camping. Et puis à un moment, j'ai à danser dans le bal des Flots Bleus, je lui dis, tiens, c'est marrant, tu sais que quand j'avais 14 ans, je faisais les concours de danse dans les boîtes de nuit au Gin Fizz à Rouen.
Génialissime.
Pour ceux qui nous écoutent. Et puis je perdais toujours, bien sûr, mais je faisais les concours de danse. On s'entraînait toute la semaine.
Oui.
Ah, il me dit, écoute, il y a un film à faire là-dessus. On va faire un film là-dessus. On va l'appeler Disco.
Oui.
Et je me souviens, le soir où on danse, il me dit, mais ne danse pas trop dans Camping, on va garder ça pour Disco.
C'est extraordinaire.
Et donc dans Camping, je danse très peu et on garde ça pour après. Et puis une fois qu'on a eu fini Camping, on s'est mis à écrire Disco.
D'accord. Alors là, après, on est reparti dans les spectacles. Il était une fois Franck Dubosc. Il y a Benabar avec Incognito. Il y a Camping 2 parce que vous réitérez, tout le monde veut Camping, mais tout le monde veut Patrick Chirac. On continue avec Franck Dubosc à l'État sauvage où je te vois de mémoire, c'est à la porte de Versailles.
Ouais, au Palais des Sports.
Ouais, je te vois. C'est avec Stéphane Rousseau, c'est ça, de temps en temps, qui fait des apparitions.
Stéphane Rousseau, non, j'ai fait pas mal de trucs avec lui, mais à l'État sauvage, c'est tout seul.
J'ai fait beaucoup de spectacles
avec lui, j'en ai fait plein. On présentait des galas.
Ouais, c'est ça, avec le festival.
Et on l'a fait effectivement là-bas.
Il y avait Juste pour rire à l'époque, qui était au Canada avec ce grand festival.
Exactement.
Et cet humoriste a beaucoup de respect pour cet homme. Et puis arrive Boule et Bill avec Marina Foïs.
Mon fils, je crois, oui. Avec un chien. Un cocker.
Un chien? Ah non, ça, on n'a pas de chien, je leur ai dit pas de chien à la maison. Et j'ai dû céder. Effectivement, on a un chien, j'avais oublié, pardon.
Je le trouve très élégant, ce film.
Celui-là, oui, le 1 est peut-être un peu plus... Oui, il est plus élégant que le... Ouais. Il a un côté social.
Ouais.
C'est par Manu Chardot.
C'est une espèce de fresque à chaque fois. Chaque fois, on peut peindre sur la toile, quoi.
Oui, le Boule et Bill, le 1 surtout, est très... d'ailleurs, il a beaucoup marché, mais il a peut-être un peu déplu aux aficionados de la BD parce que justement il était peut-être un peu plus social, un peu moins BD, plus c'était presque un film d'adulte.
Ouais.
Alors que ça s'adressait à un Bah, tout le monde est plutôt enfant.
Bande Bill. Dessinée, bien évidemment.
Oui, mais c'était presque un film d'adulte. Moi, j'aime beaucoup, moi aussi. Ouais.
En parlant de film d'adulte, après, on rebondit avec Kev Adams. Et là, il y a Fiston.
Fiston, ouais.
Fiston, Kev, bon, voilà, j'ai eu la chance aussi de l'avoir. Sa première apparition de télé, c'est Attention, la marche. C'est avec moi pour une émission spéciale parents-adolescents. C'est un garçon qui fait une carrière. On va faire juste un petit aparté sur Kev.
Il est formidable, Kev. C'est un mec qui fait. C'est un gros, gros, gros travailleur.
Ouais.
Vraiment.
Il faut le savoir.
Vraiment, c'est un gros travailleur. Il mérite son succès parce qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, hein, qu'importe forcément. Comme il est très aimé, il est très détesté. C'est les deux.
Ouais.
Mais
c'est comme toi, hein?
Oui, oui, bah, c'est populaire. Dès que c'est populaire, forcément, il y a aussi une volonté, quand on est trop populaire, une volonté d'aller attirer l'autre public aussi. On veut être aimé de tout le monde, en fait. Et on peut pas être aimé de tout le monde.
C'était un peu le syndrome, d'ailleurs, de Louis de Funès, quelque part, dans sa vie. Hein. Il l'avait dit à Maréchal Béranger à l'époque sur France Inter. Ouais. Et elle lui avait dit, mais on peut pas plaire à tout le monde, quoi.
On ne peut pas. C'est difficile. Et Kev, c'est vraiment un gros, gros, gros bosseur. C'est un homme d'affaires, c'est un bosseur, il écrit, il travaille tout le temps. Je lui ai dit, moi, maintenant, il faut que tu aies ta vie à toi,
d'abord
pour se nourrir de ta vie, mais il fait tout pour le public, beaucoup, vraiment.
Comme un papa, son fiston, en fait, si tu lui
parles. Ah oui, mais je l'appelle fiston, hein, on se conseille. Enfin, c'est vraiment un gars bien. C'est un gars bien.
Et puis après, tu continues, tu réinsistes avec Camping 3, avec une myriade de comédiens. Je ne vais pas pousser mon bungalow, il sera toujours là. Claude Brasseur, obligatoirement, toujours là, avec Mylène de Mongeau, c'est
Claude Brasseur, Mylène de Mongeau et...
Mathilde.
Il y a Mathilde. Dans le 3, il n'y a pas Mathilde.
Dans Mathilde, c'est né, elle n'est pas là.
Il n'y a pas Mathilde dans le 3. Il y a Junio, c'est dans le 3, dans le 2, dans le 3.
Je ne sais pas,
j'étais
Junio, pas
là. Junio, c'est dans le 3.
D'accord.
Junio, Michel Larocque.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens que tu traînes à tes côtés parce qu'ils comprennent le vrai du Bosque, en fait.
Ah ben, je sais pas s'ils viennent, ils viennent peut-être pas pour moi, ils viennent plus pour Camping, pour la licence, quoi, parce que c'est dans un gros film. Après, je sais pas si c'est pour moi. Maintenant, les choses changent aujourd'hui, mais sur un cinéma plus compliqué, on va dire plus...
T'en as souffert, ça? T'en as bavé,
non.
Ça?
Franchement, non.
Parce que quand même, quand tu parles du vrai du Bosque, pour moi, il arrive à tout le monde debout. Ouais. Moi qui te connais personnellement, avec ta sensibilité, ta finesse, ta vérité, et qui plus est, ta sincérité, même au troisième degré, tu es sincère, hein, je tiens à
préciser.
Oui, hein.
je suis très, très sincère. Non, j'en souffre pas. C'est-à-dire que là où je pourrais... Non, j'ai envie d'être aimé par le plus grand nombre. On pourrait dire que j'en souffre de dès qu'il y a quelqu'un qui m'aime pas. J'en souffre, mais pas au point. Je cherche pas à tout prix. Tu sais, on dit sur les acteurs faire son tchao pantin ou quoi.
Oui.
Non, je cherche pas ça. Je cherche juste à dire ne. J'aime pas l'injustice. Juste à dire, je suis peut-être pas celui que vous croyez.
2022, tu continues, tu estampilles la marque Franck Dubosc. Acteur, scénariste, réalisateur de Rumba la vie.
Et là, c'est Karina Marimont
qui
chante. C'est l'actrice qui joue le rôle de mon ex-femme, mère de ma fille dans le film. Et elle chante alors que c'était Luz Casal, la chanteuse espagnole, qui devait chanter la chanson dans le film, qui devait venir dans le film et chanter. Et puis, on a eu le Covid.
Oh.
Et puis pendant les mois d'enfermement du Covid, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que je vais la faire venir si on tourne? C'est tout un staff, c'est plein de monde, c'est tout ça. Et puis j'en ai parlé à cette actrice, Karina Marimont, qui allait faire la mère. Et elle m'a dit, tu sais, moi je chante. Cette chanson, je l'ai déjà chantée, je peux t'envoyer l'enregistrement. Elle m'envoie un enregistrement qu'elle avait fait à la maison. Et je dis, mais bien sûr, c'est le mariage de ma fille dans le film. C'est forcément, c'est pas Luz Casal qui va venir chanter au mariage de ma fille, c'est sa mère.
Ouais.
Et donc voilà, et c'est pour ça qu'Arina Marimont, qui est formidable, qui joue la Joconde, là, en tournée, une pièce de Ruquier.
D'accord.
Sa pub.
De Laurent.
De Laurent Ruquier. Et voilà, et c'est elle qui chante formidablement bien.
Et puis alors, de fil en aiguille, là j'y arrive et je vais lui passer un moment parce que, histoire de partir en week-end, on va parler d'un ours dans le Jura. Là j'ai pris des notes parce que je trouve ça complètement dingue. Cet ours dans le Jura, si toutefois vous commencez à regarder, vous vous en sortez pas. L'intrigue est insupportable, les comédiens sont d'une sincérité hors norme. Oui, ça s'appelle « Ta pub avant la pub ».
Nostalgie. Sur Nostalgie, on se tutoie ta pub avant la pub.
Et quand je dis un ours dans le Jura, c'est encore dans beaucoup de salles de cinéma. Pour moi, ça a été une spirale infernale. C'est vrai qu'on a des rythmes de vie complètement dingues. Je m'y suis mis hier matin à 6h30 du matin. J'ai dit, tiens, tu sais comment on est, tiens, on va regarder. C'est pas que j'ai regardé, j'ai dévoré le film. Mais quand je dis que j'ai dévoré le film, ça a été quelque chose de dingue. Lorca Lamy, bouleversante de sincérité, de vérité, des comédiens de fou. J'ai repéré le réceptionniste de l'hôtel, j'ai craqué pour ce mec. Je te oui. jure, il doit être présent pendant 1 minute 30, 2 minutes dans le film, mais la vérité dans l'œil. Quasiment 1 million d'entrées à l'heure où je vous parle.
Plus 1 million d'entrées.
Oui. Top 5 des films les plus vus en 2025. Alors, il n'y a pas que ça, c'est que le bouche à oreille marche. Je dois t'avouer, je vais te faire beaucoup d'aveux pendant cette interview. Ma belle-mère est à Foncine-le-Haut, dans le Jura. Dans le Jura, tout le monde en parle. C'est-à-dire qu'au début, et alors je ne vais pas te bluffer, un ours dans le Jura, le titre, tu dis, ah ouais, un ours dans le Jura. Bon, d'accord, un ours dans le Jura, c'est un truc de chasseur, c'est un truc... Écoutez, il faut se laisser prendre, parce que non seulement ma belle-mère m'a dit, mais je me suis laissé prendre, mais c'est à la fois très fort sur du quotidien, mais c'est à la fois du 15e degré. C'est-à-dire qu'au moment le plus dingue de l'imbroglio, parce que c'est un imbroglio pour moi, on balance les valses de Vienne de François Fellman. Alors on va parler, bien sûr, de François Fellman, on va parler d'un ours dans le Jura tout de suite, justement. On va valser au rythme des valses de Vienne. C'est sur Nostalgie. Et surtout, ne quittez pas. L'ours dans le Jura, il m'a mis le bide à l'envers.
Maintenant, que deviennent les valses de Vienne? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes.
Alors oui, effectivement, les valses de Vienne fait partie de la bande originale du film d'un ours dans le Jura. Si vous ne l'avez pas vu... Effectivement, les valses de Vienne font partie de la bande originale du film Un ours dans le Jura. Si vous ne l'avez pas encore vu au cinéma, je crois qu'il faut y aller. Il faut prendre le temps aussi, toutefois, c'est un peu gris chez vous. Vous allez vous faire happer, et quand je dis happer... Écoutez bien ce qui se passe. Voici la bande-annonce et on en parle tout de suite avec Franck Dubos qui est mon invité sur Nostalgie.
Michel, viens voir.
Qu'est-ce qu'on fait?
C'est beaucoup.
C'est combien?
Beaucoup. Cathy, ouais. Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales?
Anormal, c'est-à-dire?
Deux hommes, une femme, du miel.
Oh là 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 là.
Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement?
2 millions. C'est une somme.
On va le cacher. On n'y touche pas.
Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait?
On réfléchit, je te dis.
C'est l'histoire de la petite fourmi qui voulait manger la baleine. Je crois que l'histoire est dans le titre.
Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants. Qu'est-ce que vous faisiez la nuit du 21?
On était au Cupidon.
La boîte d'échangistes?
Le jeudi, c'est soirée bang bang.
Gang bang.
Gang bang.
C'est extraordinaire. Cette bande-annonce, en plus, elle me prend aux tripes parce que pour moi, c'est encore tout frais. L'histoire de Cathy et Michel, c'est toi qui inventes cette histoire totalement parce que c'est basé sur une histoire fausse.
Oui, oui, tiré d'une histoire fausse.
Ouais, tiré d'une histoire fausse. Il faut être quand même tourmenté, monsieur Franck Dubosc, pour écrire ce genre de choses.
Non, je faut avoir envie de... C'est mes rêves de gosse. J'adore les trucs de gangster, de...
Ouais.
Alors, j'aime le rire, donc il y a forcément du rire, mais j'aime le... J'avais envie de ça, j'avais envie de revolver, j'avais envie de faire un film où, tu sais, tu te sens réalisateur, quoi. T'as des revolvers, t'as des cascades, t'as des acteurs, Benoît Poulvord, on l'a pas, je sais plus si on l'a cité, tout à l'heure, mais non, c'est des envies, mais c'est parti d'un, c'est la première fois que je coécris avec
une femme,
films, avec Sarah Kaminski,
ouais, c'est ça.
Et je lui ai raconté, on était parti sur, elle devait écrire un autre film pour moi, ouais, dans lequel je participais pas à l'écriture.
Et tu lui as dit stop, on arrête tout.
Et je raconte, non, je lui dis, tu sais, moi j'ai envie d'écrire, je vais écrire sûrement un film, je sais pas, je vois une voiture, un accident, Une femme qui fait pipi derrière la porte de la voiture comme faisait ma mère quand on partait en vacances.
Tu t'imagines le pitch de la pauvre Sarah.
J'ai déjà ça. On rentre dans la voiture, il tue les mecs, il ouvre le coffre, il y a 2 millions d'euros dans le coffre. J'ai tout ça. Et des migrants, de la drogue. Elle me dit, je pars avec toi. On écrit ça tous les deux.
Tu te rends compte de l'idée ? Parce qu'en fait, tu dis, t'as envie, mais t'as surtout envie de te surprendre. Et là, tu nous surprends.
Oui, j'ai envie de me surprendre. J'ai envie de pas ronronner.
Ouais.
J'avais écrit un autre film que peut-être je ferai un jour, hein, que j'aime bien, mais qui était une comédie romantique. Mais j'avais envie de pas ronronner. J'ai envie de faire autre chose. Pas forcément de surprendre les gens, mais de me surprendre moi.
Mais alors là, tu nous surprends aussi, parce que là, l'histoire mieux, de Cathy et Michel...
Qui vendent des sapins dans le Jura. Oui.
Non, mais qui vendent des sapins. Mais la scène du miel, où tu badigeonnes de miel, avec cette autodérision insupportable, parce que là où c'est fort, c'est que tu as mis vraiment la musique qu'on n'attendait pas du tout, à des instants qui sont hyper terrorisants. D'un seul coup, tiens, je vais mettre des années 80, des années 90... Ouais. Et là, tu nous emportes encore plus parce que c'est le summum de l'autodérision.
Ah oui, non, mais moi j'aime ça. Il y a, c'est pas une influence parce que c'est ce que fait un peu mais qui va se comparer Tarantino.
Ouais.
Enfin, alors donc moi j'ai pas fait pareil, mais comme j'aime ça, j'aime quand on est à côté sur la musique. Ouais. Bah, forcément, je me suis pas privé de faire ça. Oui, d'être à côté. Et puis j'ai mon compositeur Sylvain Goldberg qui m'a fait des choses. Incroyable en musique, la musique de ce film qui est très... Oui, effectivement, j'en
folle.
Mets jamais là où on s'y attend.
Ouais. Je ne me suis pas arrêté, c'est un problème quand tu commences à 6h30 du matin et je dois t'avouer que pendant 1h52 minutes de mémoire, figure-toi que j'étais rivé sur mon téléviseur. De temps en temps, d'où ça vient ça ? La fourmi peut manger la baleine.
C'est, je l'ai inventé.
Mais
oui,
ça ne m'étonne pas de toi.
C'est l'histoire de la petite fourmi qui veut manger la baleine, mais l'histoire est dans le titre. Mais...
Ouais.
Oui, et d'ailleurs, je le mets à la fin, c'est parfois la fourmi qui mange la baleine.
Ouais.
Parce que j'avais envie de... je ne veux pas donner de leçons, surtout pas. Je ne veux surtout pas que ce soit un film qui donne des leçons ou quoi. Mais il y a des fois, j'ai envie de dire des petits trucs.
Ouais, et de faire passer des messages, tout simplement.
Et voilà, et j'aimais bien le fait de dire que parfois, c'est c'est celui qu'on croyait le plus faible qui gagne. Juste, c'est dit comme ça, c'est écrit à la fin. J'en ferai pas un film. Je ne ferai pas un film qui dit ça complètement.
Ouais.
Qui le prône, mais le dire discrètement à la fin du film, j'aime bien ça. Ouais.
Le casting, il est tellement bien choisi. Quand Poulvorde, il regarde le scénar, il te dit oui rapidement.
Tout de suite. Oui.
Et parce qu'il a un rôle de fou, une espèce à la fois de délicatesse, d'insouciance totale, et progressivement, il creuse, mais on ne le voit pas du tout arriver.
Non, parce que c'est un brave type, mais c'est ce que je voulais un homme, un acteur... qui puisse avoir sur les épaules toute sa carrière, tout son monde qui s'écroule.
Ouais.
Là, en l'occurrence, il est en divorce.
Ouais.
Et la chose la plus importante pour lui, c'est de fêter Noël et d'acheter un beau sapin pour que sa femme, qui vient pour la première fois avec son nouveau mec, soit épatée. C'est son point de... Lui, c'est ce qui est le plus important pour lui, alors qu'il a autour de dans les bras 8 morts et tout ça. Je voulais ça. Et je voulais un mec à l'œil comme ça, qui tombe un peu, qui... Et Benoît a ça. Il sait nous émouvoir et nous faire rire dans la même phrase. Il est très, très fort. Hein.
Mm.
C'est un génie de la comédie, du jeu. Quand je dis de la comédie, c'est
bien sûr, du jeu.
Il y a d'ailleurs une scène où on parlait de musique tout à l'heure, dans laquelle il a un monologue avec Joséphine Demeaux, qui est formidable aussi. Et mon compositeur m'a dit, est-ce que tu veux qu'on mette un peu de musique là-dessus ? C'est joli, c'est beau. Je fais, non, la musique, c'est lui. C'est pas de musique là-dessus, c'est trop évident de mettre une belle musique sur un beau monologue. J'ai dit, non, ça se suffit comme ça. Il est tellement fort que je veux entendre tout ce qu'il dit sans musique. Ne pas l'appuyer. Bon, après, ça, c'est la sauce de la réalisation, mais...
Bien sûr.
On s'en fout, mais c'est le résultat qui compte.